marche pas. Marche. Ça marche? Oui. Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour Wajdi, bonjour Marie-Thérèse. S'il vous plaît, approchez-vous, il y a de la place encore devant. C'est beaucoup plus agréable d'être devant que loin derrière. Alors, voilà, bienvenue au Festival Transamérique. Je veux vous dire que c'est avec énormément d'émotion et de bonheur que nous accueillons au Festival Le Sang des Promesses, donc Trilogie et Ciel. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de la création de Littoral au Festival de théâtre des Amériques il y a 13 ans, je crois, à peu près 13 ans, et suivi par la création de Rêve et par la venue également d'Incendie quelques années plus tard. C'est donc une histoire commencée il y a 13 ans qui se poursuit, et aujourd'hui au festival on boucle la boucle avec la totalité du Sang des Promesses. Donc nous avons pensé qu'il était important que vous rencontriez, que nous ayons la possibilité, outre les spectacles, de parler, de partager un moment avec Wajdi Mouawad à l'occasion de sa venue à Montréal. Et j'ai demandé à Marie-Thérèse Fortin, qui est la directrice artistique du théâtre d'aujourd'hui et qui, elle aussi, a accueilli en plusieurs occasions le travail de Wajdi, de s'entretenir avec lui. Alors, je vous souhaite une bonne rencontre à tous.
Merci, Marie-Hélène. Alors, merci à vous tous d'être venus si nombreux. D'entrée de jeu, je vais vous dire qu'il y a quelque temps que Wajdi et moi, on ne s'était pas vus. Donc, j'ai plein de questions pour lui parce que, comme vous, j'ai vu la trilogie, j'ai revu certaines pièces que j'avais déjà vues et j'ai découvert Ciel hier soir. Alors, j'ai préparé des questions, mais je vous avoue très franchement que ce sont des questions très, très égoïstes que je vais lui poser, des questions qui m'habitent depuis que j'ai vu ces spectacles. Mais rassurez-vous, il va y avoir une période de questions qui va vous être permise à vous aussi, donc vous pourrez, si mes questions ne vous intéressent pas, lui poser les vôtres. Voilà. Alors, je vais mettre mes yeux et on va commencer. Bonjour, Wajdi. Alors, pour emprunter une réplique d'un de tes personnages dans la pièce Incendie, maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Ce à quoi nous avons assisté pendant le FTA, c'est la reprise de la présentation de ce qui a été fait à Avignon l'an passé. À la différence qu'à Avignon, il y a eu une présentation au moment où le soleil se couchait et le cycle se terminait quand le soleil se levait. J'imagine que est-ce que c'est la première reprise depuis Avignon du cycle?
Non. Tout au long de l'automne, entre septembre et décembre, nous avons fait une tournée qui était ahurissante parce que les quatre, même les cinq spectacles tournaient en même temps. Je dis les cinq, c'est-à-dire que parfois Littoral jouait seul, Incendie jouait seul, Forêt jouait seul. Parfois les trois se retrouvaient pour faire la trilogie et pendant ce temps-là, Ciel tournait aussi de façon indépendante. Okay. Donc ça a été un automne de représentation intense. Il y avait, je ne sais pas, on était peut-être en tout... J'ai jamais compté, mais on devait être à peu près 70 en tout à tourner comme ça entre Ciel, Littoral, Incendie, Forêt et la trilogie.
D'accord. Mais est-ce que ça a été présenté un à la file de l'autre?
Oui.
D'accord.
Oui.
Et qu'est-ce que ça t'a fait de le présenter à Montréal, là où, en fait...
Ce que je peux dire, c'est ce que ça m'a fait. Parce que, au fond, le théâtre, c'était la même chose, par exemple, à Avignon, ou bien... Personnellement, je n'ai pas été pris par des émotions intenses, tellement j'étais simplement occupé par des questions extrêmement techniques. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas le temps de m'émouvoir sur le fait qu'on était, je sais pas où, pour jouer, je sais pas quoi. Tu vois, c'était arrivé. Et puis là, par où les acteurs vont sortir, la chaise, elle rentre par où, les problèmes de peinture, et puis surtout la responsabilité très grande que je ressentais envers les êtres humains qui étaient dans cette aventure, ne serait-ce que les mains de ceux qui allaient nettoyer les habits des acteurs après la peinture. Ça, c'est frotté. À Ottawa, j'ai vu des habilleuses pleurer en frottant tellement elles n'en pouvaient plus. Donc j'étais extrêmement préoccupé par ça. Donc j'ai pas du tout le temps de toucher à... par exemple, quand on me disait « Ah, ça devait être extraordinaire », je n'avais pas le temps de le voir. Je ne voyais pas. Et quand je suis arrivé à Montréal, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire je n'avais pas le temps de prendre en considération le niveau symbolique de la chose, tellement, bon, bah, vous arrivez, ça fait un an, non, ça fait plus que, je sais pas, ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas fait, donc il a fallu que je réinvestisse les acteurs, et il a fallu répéter, il a fallu retrouver le sens de ça, c'est quand même 11 heures, etc. Là où ça a pris un sens, c'est que très étrangement, j'ai dit aux acteurs, je veux aller saluer aujourd'hui. Après, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Je le fais quand les acteurs me poussent. Mais à Montréal, je voulais le faire, mais je ne savais pas exactement pourquoi je voulais le faire. Mais j'en avais vraiment envie. Et quand j'ai été là après la trilogie saluer, il y a quelque chose qui... Alors c'est très intime, mais moi j'aurais vécu 24 ans de ma vie à Montréal. Il n'y a pas un centimètre de tout ce territoire-là, qui est à peu près à 3 km à la ronde, que je ne connais pas par cœur pour y avoir erré à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans, sur la rue Sainte-Catherine. J'ai tellement erré, c'est vraiment le terme, dans le complexe des jardins, à acheter des gratteux, à les gratter, à aller au cinéma, à l'époque où il y en avait un, à aller à la librairie du complexe des jardins. Ça, c'était quand j'étais encore à la polyvalente, c'était quand je n'osais pas rentrer chez moi à la maison. J'ai tellement été embrassé, et j'ai tellement embrassé amoureusement des gens, des filles, un peu partout dans ce coin-là. J'ai travaillé, j'ai travaillé au télémarketing pour l'Orchestre Symphonique de Montréal, là, dans le bâtiment qui est juste pas loin d'ici, à appeler des gens pour les déranger en plein milieu de leur repas pour leur demander si... Et j'étais très mauvais, j'étais très malheureux dans ce travail. Enfin bref, c'est pour vous dire, c'est plein de souvenirs. Il n'y a pas une ville au monde qui est habité comme ça par mon errance, mon égarement, ma conviction de pas arriver à quoi que ce soit, de pas trouver un sens à ma vie, de pas savoir qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, ni dans le monde, ni la conviction de l'égarement est très profonde là, dans les lieux qui sont là. C'est plein de fantômes, de Wajdi égarés. Et tout à coup, d'être avec des amis acteurs après 11 heures de spectacle, devant des spectateurs que je ne voyais pas parce qu'on était éblouis, mais entendre les applaudissements, j'ai eu l'impression que c'était 24 ans de ma vie qui m'applaudissaient. Que c'était 24 ans d'égarement, de doute, d'angoisse et d'incertitude qui me disaient « Merci, bravo, c'était bien, jolie fête, je sais pas quoi, t'écris bien, c'est bien ». Et ça, je crois que c'est ce qui était le... Ça, j'ai pas trouvé ça, même, je veux dire, quand j'ai été salué à Avignon, j'ai éclaté de rire, j'avais un fou rire épouvantable, parce que je me disais, mais c'est quoi cette connerie? Mais tellement c'était énorme. Là, il y avait vraiment un rapport à ma propre vie. Comme quoi, le théâtre, c'est local. C'est, on peut bien aller le faire au bout du monde, mais le théâtre, c'est local. Le théâtre, on le fait pour les gens avec lesquels qu'on croise tous les jours à côté. Après, c'est chouette de tourner, mais c'est local. Le théâtre est un art local dans le sens où on le fait. Puis, en général, je sais pas, tu le sais bien, comme directrice du théâtre d'aujourd'hui, quand tu fais une pièce au théâtre d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est 95% des spectateurs habitent à 10 km à la ronde, quoi. Pas plus. Eh ben, ça, c'est vraiment important. L'art, un art, c'est pas le cinéma, c'est... Et ça m'est revenu en pleine face, cette localité. La notion de localité, la notion de citoyen avec qui on partage la même vie. Et ils étaient tout à coup dans la salle.
Pourquoi as-tu souhaité retravailler Littoral? Parce que c'est à une autre version qu'on a assisté.
Bon, je n'ai pas du tout envie de donner de réponse dramaturgique parce que ce n'est pas intéressant. Je vais raconter une histoire qui est vraie. La première fois où j'ai été en France après qu'on ait déménagé au Québec, c'était 6 ans après notre arrivée ici. 6-7 ans, je ne sais plus. Donc, j'arrive en France, j'ai 18 ans, et je suis content. Et puis, un jour, par hasard, je traverse le jardin du Luxembourg, et en traversant le jardin, je passe devant un banc. Et je m'arrête et je me souviens que sur ce banc, quand j'avais 11 ans, quand j'étais en 6e, on nous avait amené voir un film qui s'appelle Dersu Uzala, qui est un film qui m'avait profondément marqué. Et après le film, nous étions sortis avec les camarades de la classe et on rentrait chez soi. Or, il se trouvait que mon chemin pour rentrer chez moi passait par le jardin de Luxembourg. Et pour y aller, j'étais accompagné par une fille qui allait dans le même chemin que moi. Et il se trouvait que cette fille était ce qu'on appelle communément la plus belle fille de la classe. Il y en a toujours une, c'était elle. Et en traversant le parc, elle me dit « Ah, de la barbe à papa, tu en voudrais ?» Je dis « J'ai pas d'argent. » Elle me dit « Je t'en paye un. » Et on s'est assis sur ce banc, on a mangé de la barbe à papa. Et ça a été un souvenir très grand, très beau. Quand, quelques années plus tard, je repasse devant ce banc, je m'arrête et je me revois. Et non seulement je me revois, mais au fond, la pensée qui m'avait traversée à ce moment-là, c'est au fond, j'y suis encore sur ce banc. Je suis encore assis sur ce banc. Et même plus que ça, lorsque je me suis assis sur ce banc avec cette fille il y a quelques années, celui que je suis aujourd'hui était déjà là à me regarder. Seulement, à ce moment-là, je ne pouvais pas me voir. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, eh bien, peut-être qu'en ce moment même, celui que je serai dans 10 ans est de l'autre côté en train de regarder celui que je suis, en train de regarder celui que j'étais. Ça a été une chose vraiment très importante parce que ça m'a, ce jeu du temps, ce jeu où tout à coup des réalités temporelles se croisent, se touchent, dialoguent les unes avec les autres dans un rapport nostalgique, a été une chose très importante dans l'écriture. On retrouve ça dans Forêt, on retrouve ça dans Littoral, justement, où il y a 3 pères qui n'arrêtent pas de se regarder, se voir. Ça a été un moment très important, ce moment où j'ai pris conscience que on est toujours dans les lieux qui nous ont marqués. On ne les quitte pas. On les quitte, mais on ne les quitte pas. Et celui que nous serons dans 10 ans, qui va venir se souvenir de ce moment-là, est déjà là en train de se souvenir de ce moment-là. Eh bien, réécrire Littoral, retravailler Littoral, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de OHD qui décide de réécrire Littoral, il faut peut-être imaginer la chose différemment. Il faut imaginer que Littoral regarde Littoral. Que Littoral dit à Littoral, « Bien, maintenant, t'as vieilli un peu. » T'as grandi un peu, mais tu n'es plus tout à fait le même, mais tu n'as pas changé non plus. T'as perdu quelques illusions, mais t'as gagné quelques convictions. T'as moins besoin de séduction, mais t'as encore très peur d'être déçu. C'est, pour moi, si vous voulez, comme auteur... La capacité de faire, d'être l'intermédiaire entre Littoral et Littoral qui se parle. Et d'essayer d'être le rapport juste à ça, de dire à Littoral 97, écoute, t'as vu, t'as changé. C'est bien. Puis dire à Littoral 2003, écoute, faut pas lui demander trop quand même, parce que là, tu la dénatures. Très concrètement, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire... Quand j'ai écrit Littoral en 97, je ne savais pas ce que ça voulait dire un adverbe. Je ne savais même pas ce que c'était un adverbe. Il se trouve qu'entre 97 et 2010, j'ai appris qu'un adverbe était un mot qui colorie le verbe. Quand vous n'avez pas trouvé le bon verbe, vous ajoutez un petit truc à côté pour le définir un peu. Ce petit truc, ça s'appelle un adverbe. Moi, je ne savais pas ça. Or, dans Littoral 97, il y avait plein d'adverbes. Par exemple, il y a plein de « un peu », expression de « il y a plein de un peu ». Par exemple, le personnage n'arrête, tous les personnages n'arrêtent pas de dire « je suis venu pour vous dire un peu qui je suis, un peu ». Je me dis « mais c'est quoi ce tic de langage ? Pourquoi j'écrivais un peu ?» Et tous les personnages disent « un peu ». C'est pas « on peut pas ». Alors, j'ai enlevé tous les « un peu ». J'ai enlevé, par exemple, tous les adverbes de temps, les parfois, les toutefois, les quelquefois. J'ai enlevé les adverbes de lieu. J'ai enlevé j'ai changé des verbes qui étaient accompagnés d'adverbes par un verbe qui n'avait pas besoin d'adverbes. Ne faire que ça, c'est comme si j'avais jeté un seau d'acide sur le texte et que les mots de trop avaient fondu. Ensuite, ensuite il se trouve que au niveau structurel, au niveau mental, je ne suis plus tout à fait le même. Et je voyais bien qu'il y avait des choses que je ne voyais pas en 97, que là je vois. Et je me suis dit, je vais quand même pas faire semblant que je ne les vois plus, je les vois. Alors deux scènes qui se répètent, j'en ai coupé une, j'en ai fondu une dans l'autre, etc. Donc tout ça était, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas. J'ai retravaillé parce que c'est du théâtre, parce que c'est de l'oralité. J'ai retravaillé parce que c'était, ça allait de soi, parce que c'était moi, parce que c'est évident, parce que c'est ce rapport au temps qui me passionne beaucoup. Littoral parle à littoral. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire ?
Est-ce que tu as éprouvé le même besoin pour Incendie ?
Non, parce que quand j'ai écrit Incendie, je savais ce qu'était un adverbe. Parce que entre Littoral et Incendie, il y a le roman. Il y a Visage retrouvé. Et quand j'ai écrit Visage retrouvé, il se trouve que j'ai fait un travail avec Pierre Fillon, qui était mon éditeur, qui a été le rattrapage. J'ai compris ce qu'était l'écriture. Enfin, j'ai appris à couper, j'ai appris à comprendre mon rythme cardiaque, c'est-à-dire de le maîtriser un tout petit peu plus, de le saisir un tout petit peu plus. Et la même chose par rapport à Forêt. Il y a eu moins de travail sur Incendie et Forêt que sur Littoral. Par exemple, Littoral, première version, c'est bourré de tics de langage, de choses vraiment qui, à mes yeux, maintenant à moi, peut-être que je me trompe, n'étaient pas de l'ordre du choix, mais étaient l'ordre d'une certaine forme de... Comment dire une oralité mal maîtrisée, je dirais.
Dans une entrevue que tu as accordée, tu dis à un moment donné que tu t'étonnes que les gens ne te parlent pas de la sexualité qui est présente dans tes pièces. Moi, je suis tout à fait d'accord pour en parler avec toi. Et je pense que ça commence avec Littoral, donc aussi avec l'apparition de la peinture. Ce qui m'a sauté aux yeux dans le tout début de Littoral, c'est quand Emmanuel Schwartz est contre le mur et que tout le monde en fait la peinture. Et quand il se retire, on est devant le sexe d'une femme en négatif, si on veut, parce que c'est surtout de la peinture blanche. Et il y a un moment donné, on fait cette ouverture dans ce sexe et le père apparaît. C'est par là que va transiter tout le passé, au fond. Et ce rapport à la peinture, parce qu'il n'y avait pas de peinture non plus dans la première version de Littoral. Donc, ce rapport très, 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 très physique, très organique avec la peinture est apparu. Et est apparu aussi cette présence de la sexualité encore plus forte. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire au sujet de cet aspect de la sexualité dont on ne te parle jamais et qui compte autant pour toi?
Il se trouve que la première pièce que j'ai écrite, qui s'appelle Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, met en scène des couples qui se disent les pires horreurs. Ce que le père de Willy dit à la mère de Willy, ce que la mère de Willy dit au père de Willy, ce que Conrad Philistir Alestine dénonce chez le fait que il y a des viols d'enfants, hein. il y a des personnages qui n'arrêtent pas de se renvoyer à la face leur incapacité sexuelle. Il se trouve aussi que les jurons libanais, qui sont d'une violence inouïe, reposent tous sur le sexe de la femme. Donc la pire insulte qu'on peut dire à quelqu'un, c'est même pas, il y a même pas de verbe, c'est nommer. On nomme, on dit à celui qu'on veut injurier le sexe de ta mère. On dit même pas d'action. On dit sexe de ta mère, on dit sexe de ta sœur, on dit sexe de ta sœur, sœur de pute. C'est d'une violence inouïe. Moi, par exemple, les jurons arabes, je ne suis pas capable de les dire. Je suis dans un rapport de tabou épouvantable par rapport à ça, tellement c'est d'une violence. Ça, je m'en fous en tant que tel. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est sur quoi repose toute une culture, toute une pensée, toute une attitude qui a été pour moi, je crois, celle qui, seconde après seconde de toute mon enfance, et bien plus que la guerre, bien plus que la guerre, la guerre est gentille par rapport à ça, bien plus que la guerre, a été ce qui a, je crois, seconde après seconde, heurté la sensibilité qui pouvait être la mienne à l'époque où je ne savais même pas qu'existait le mot sensibilité, parce que moi, je viens d'une famille où on pense que, à partir du moment où votre corps physique va bien, ça veut dire que vous allez bien. C'est-à-dire que Freud n'a pas existé. Ça n'existe pas. Ce qui peut alors là, quant à la question métaphysique, si la psychanalyse n'existe pas, alors là, le métaphysique, n'en parlons même pas. Donc, et je crois que cette chose-là, violent est à la base de tout ce dont il a fallu moi-même me débattre pour me sortir de cette chose-là, étant donné que je suis moi-même un homme arabe élevé dans une pensée extrêmement violente sur la parole. Et qui s'est retrouvé, par exemple, dans Willy, dans Journée de noces, il y a un monologue au complet que le père dit à la mère en lui disant « Putain de merde, tes règles me font chier. Ça pue, ça m'énerve. Willy, c'est pareil. Lorsque j'arrive dans le littoral, c'est ça au début. Hein. Bon, dans Incendie, il y a la même question, mais beaucoup plus tabou. Mais quoique, c'est des incestes à qui mieux, forêt, on n'en parle même pas. Et je crois que c'est parce que la rencontre, dans mon cas à moi, entre l'Orient et l'Occident, n'a pas trouvé de solution quant à l'amour, quant à la question de l'amour, quant à la question de la tendresse, quant à la question de la douceur, quant à la question de l'humanité des choses. Et quand je dis que la rencontre entre l'Orient et l'Occident n'a pas trouvé de réponse, c'est que autant l'éducation orientale que j'ai pu avoir a été dans cette violence, autant la rencontre avec l'Occident n'a donné aucune réponse à ça, n'a donné que le cynisme, n'a apporté pour moi que comme seule réponse une sorte d'antithèse à ça, c'est-à-dire un subjectivisme effréné où, bah, tu sais, moi, il y a encore aujourd'hui quelqu'un qui m'a dit « Non, mais c'est bien, c'est... Non, je vous dirai pas ce qu'il m'a dit parce que c'est trop épouvantable. Mais c'est-à-dire, mais tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Vas-y. Tout est permis. La vie est là. Prends-la. Prends. Tout est permis. Tout est permis. Et dans cette rencontre entre le tout est permis et le rien n'est permis, entre cette rencontre entre le viol et l'aventure, exactement comme dans la pièce de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, moi je me reconnais complètement dans le personnage de Bottom. Je me reconnais pas dans Dimitrius, je me reconnais pas dans Lysandre, je me reconnais dans le personnage de Bottom qui, avec sa gang, font une pièce de théâtre qui fait rire tout le monde. Mais de quoi parle sa pièce? La pièce de Bottom parle d'une pièce, d'une scène, deux personnages s'aiment et ne peuvent à peine se toucher parce qu'ils sont séparés par un mur. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est passer un bras et toucher le bras de l'autre et ils s'évanouissent de bonheur et ils sont habités, si vous voulez, par une naïveté face à l'amour qui est extraordinaire, qui est précisément celle qui va faire rire tout le monde à la fin, mais qui va faire rire qui ? Il va faire rire ceux qui ont passé leur nuit à se fourrer les uns les autres, à qui mieux, avec la seule intention de baiser, quoi. Et ce rapport entre l'Occident et l'Orient, pour moi, est un rapport de... Je suis pas à un niveau moral, je suis à un niveau peut-être plus... ce rapport à la pensée, à l'esprit, à la poésie. C'est-à-dire, là, on parle de sexe, mais on pourrait parler de poésie. Qui croit encore à la poésie? Croire dans le sens où investir toute sa vie, sans cynisme. Qui croit encore à ça? Et c'est en ce sens-là que là, il y a un saut. C'est-à-dire, moi, je n'écris pas des pièces moralisateurs pour dire ne couchez pas ou bien couchez. Je m'en fous complètement. C'est simplement que ce rapport à la sexualité me permet de passer par un rapport extrêmement concret pour poser cette question, mais moi qui aimerais appartenir à la poésie, pourquoi je n'y arrive pas? Où est-elle dans la vie de tous les jours? Et pourquoi mes contemporains avec qui je vis tous les jours, lorsque je leur dis poésie, ils éclatent de rire? Ou ils semblent croire que cette chose-là, poésie, et engager sa vie dans la poésie, est une chose, est une parole, est une chose à côté. Pourquoi, par exemple, j'entends souvent des gens dire « Ah, ça plaît beaucoup aux jeunes ». Et que personne ne se pose la question, mais pourquoi ça leur plaît? Pourquoi ça leur plaît? Qu'est-ce qui plaît là-dedans? Et je crois que c'est ce rapport, je pense, à la naïveté. Naïveté, dans un sens, je dirais vraiment, philosophique. Vous savez, un philosophe, pour être philosophe, il faut qu'il s'étonne. Il ne peut pas y avoir de pensée philosophique s'il n'y a pas eu d'étonnement au départ. Tout philosophe a été étonné. Il y a une chose qui l'étonne, mais pour être étonné, il faut être un peu naïf. Sans cette naïveté au point de départ, il ne peut pas y avoir de concept, il ne peut pas y avoir de geste poétique. Et je crois que cette chose-là, pour moi, elle est fondamentale. Et une des manières avec laquelle je la raconte, c'est précisément par le viol, par l'inceste violent, par aussi, par exemple, oui, en effet... C'est-à-dire, comment naître? Comment naître à la poésie? Comment naître à soi? Comment naître à sa propre question? Comment naître, c'est-à-dire, comment trouver sa place dans le monde? Comment appartenir à soi? Comment naître sa naissance et mourir sa mort? Et entre les deux, vivre sa vie, si je puis dire, dans un rapport qui soit unique, le sien. Souvent, par exemple, la question, on me dit « Ah, t'as accouché d'une pièce ?» Je dis « Non, c'est pas moi qui ai accouché d'une pièce, c'est la pièce... La pièce a accouché de moi, j'ai l'impression de naître. J'ai l'impression que j'ai été dans le ventre d'un spectacle et que le jour de la représentation, je nais. Parce que j'apparais à moi-même. Et je crois que tout geste de poésie ne peut être qu'un geste d'apparition. S'il n'y a pas d'apparition, en tout cas pour celui qui le fait, ça veut dire qu'il y a répétition, c'est-à-dire il y a je refais un truc que je sais faire, il y a déviation. Ensuite, moi, je crois que ce que je cherche, c'est l'effraction. Comment Par exemple, les fractions, c'est quoi? Les fractions, c'est vous ouvrez une porte, puis vous savez pas comment vous avez fait, puis vous êtes dans un jardin. Là, tu dis, oh, putain, je suis dans le jardin. Mais là, vous en profitez, vous êtes dans le jardin. Mais vous savez pas du tout comment vous avez fait pour arriver dans le jardin. Et puis bon, bah, vous en sortez, mais vous savez pas comment vous avez fait Les fractions, c'est quoi? Les fractions, c'est être en train de faire une chose et tout à coup réaliser que c'est de la poésie. Vous vous dites, mais comment j'ai fait pour arriver là? Les fractions, c'est être avec un truc qui n'a aucun sens, qui s'appelle un bout d'histoire ou un bout de phrase, une coagulation de mots. Vous vous levez un matin avec deux mots. Instant, ça c'est un mot, minotaure, c'est un autre mot, puis vous savez pas pourquoi vous les avez mis ensemble, vous savez pas d'où ça vient, instant minotaure. Et vous faites quoi avec instant minotaure? Vous savez pas si vous l'avez lu quelque part, si ça vous a été donné, si c'est vous, mais vous y êtes, c'est une effraction. C'est pas décidé, c'est pas choisi, c'est pas conscient, je me suis pas assis à table en disant c'est quoi la phrase. J'ai une coagulation entre deux choses, une effraction, un viol. Mais alors un viol qui mène vers quelque chose qui est profondément intime, un viol de soi-même, par soi-même, de la langue, du langage. L'effraction, c'est de se rendre compte, tiens, ça, ces mots-là, là, les mots que j'utilise ne me serviraient à rien dans un dépanneur. Il ne me servirait à rien dans une préfecture de police. Il ne me servirait à rien dans le monde de tous les jours. Pourtant, pourquoi ils sont, à mon cœur, les plus chers qui soient? Alors qu'ils ne me servent de rien. Pourquoi je ne veux pas les perdre? Pourquoi je préférais mille fois ne plus savoir comment dire « je voudrais acheter une pinte de lait, s'il vous plaît, monsieur » que d'oublier « instant minotaure ». C'est un jardin, vous êtes dedans. Eh ben, je crois que dans toutes mes pièces, dans toutes les pièces que j'ai écrites, en tout cas les de Willy jusque Ciel, la violence sexuelle, la plupart du temps celle des parents, mais ça c'est une autre histoire, est là comme une figure monstrueuse de ce qui, précisément, opacise la transparence des mots qui gisent au cœur d'un adolescent. L'adolescent, c'est quoi? C'est cet instant sublime qui apparaît une fois dans la vie d'un individu où tout à coup sa conscience s'ouvre, puisqu'il n'est plus un enfant, sa conscience s'ouvre, et parce qu'elle s'ouvre, il ressent à la fois, en même temps, le désespoir, puisqu'elle s'ouvre, et à la fois, le bonheur, parce qu'elle s'ouvre. En même temps. Ça, cet instant, c'est l'instant minotaure, c'est l'instant de l'adolescence. Opaciser cet instant, c'est peut-être la seule chose qui pourrait faire en sorte que je pourrais tuer, moi, quelqu'un. C'est-à-dire devenir extrêmement violent, malgré moi.
Qui opacise cet instant, pour toi,
c'est la vulgarité.
Le cynisme.
C'est le cynisme, c'est la vulgarité qui dit oui. Ça, là. Ce truc-là qu'on se paye tous comme un coup de poing, là, le où chacun se retrouve seul comme un con. En se disant, mais pourtant, je sais pas, elle était profondément transparente, cette chose que je la sentais fortement, quoi. Bon, je dois être con. Je dois avoir rêvé.
Ce qu'il y a de bien dans la présentation presque consécutive de tes pièces, Le sang des promesses et de Ciel, c'est qu'on ressent très fortement qu'il y a comme une blessure qui demande à être guéri ou un chagrin qui demande à être consolé ou une quête de qu'est-ce qui fait que j'ai ce chagrin, que j'éprouve ce chagrin. Et hier, quand j'ai vu Ciel, c'était très beau parce que à un moment donné, il y a un poème que le personnage essaie de décrypter. Et une fois qu'il est décrypté, il devient un autre poème qui révèle le secret de l'histoire de cet homme-là qui s'est tué. Et puis, après ça, on voit les lettres sur les murs qui tombent en rafale, qui se désagrègent, en fait. Et je me suis demandé, c'est comme si tu avais écrit toute ta vie pour arriver à savoir qu'est-ce qui provoque le chagrin, et que même en cryptant un poème et en décryptant un poème, les lettres fuient et il reste rien. Est-ce que tu peux dire, après avoir écrit toutes ces pièces, qui touchent, je pense, à cette transparence que tu essaies de préserver, est-ce que tes pièces, est-ce que les mots t'ont permis d'éclaircir ce mystère, de ce chagrin?
Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que je crois que en aucun cas j'ai senti que l'écriture était là pour consoler quelque chose ou pour recoller. Il y avait une quête. Cette quête était peut-être la quête de... C'est-à-dire que... Comment dire ? Qu'est-ce que la vérité ? Bon, c'est-à-dire... Même si on ne sait pas c'est quoi la vérité, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'est la vérité qu'on ne pressent pas en soi l'existence d'une vérité. Même si on sait profondément que elle est innommable, j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament ce moment où Ponce Pilate demande au Christ, lui dit tu es là, il paraît, pour apporter la vérité ? Il dit oui. Il dit, alors c'est quoi la vérité ? Et là, il y a un silence. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce silence-là. Parce que ça veut dire, ça traduit quoi ? Ça traduit que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le nommer qu'on ne le pressent pas. Comme un horizon, au loin. Cet horizon... Dans le cas qui m'habitait, c'est vrai que la question du chagrin y était extrêmement liée, de la colère, du ressentiment, de l'insatisfaction chronique. Mais dans le fait de raconter de littoral, d'incendie à forêt, il y avait quelque chose comme... Mais qu'est-ce qui se joue derrière tout ça ? Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça ? Dans Ciel, il y a peut-être, parce que j'ai pas encore, mais dans Ciel, il y a peut-être un changement majeur qui est je ne crois plus, que la colère, le ressentiment, la rage sont là pour être calmés. Je crois au contraire que ce sont des choses qui doivent être brûlantes et que qu'elles sont nécessairement le chemin qui peuvent me mener vers cet endroit que je cherche à atteindre peut-être à l'ultime moment de ma vie, qui est précisément la crête entre la raison et la déraison. Lorsque vous atteignez la déraison, on est complètement dans l'illumination, là, c'est vraiment, on tombe dans un truc, c'est-à-dire la folie. Mais c'est tellement, je me dis, ça doit être tellement beau d'être à chemin, sur la crête de cette chose-là. Et je pense que la rage, l'insatisfaction, la colère exprimée par les mots, par la poésie, exprimée par la beauté, sont un chemin qui, dans ma propre vie, me mène à chaque fois un tout petit peu plus loin sur ce chemin vers l'instant de... où il n'y a plus de réponse à rien, mais qu'il n'y a qu'une sensation prodigieuse de sa propre vie. C'est-à-dire, où il n'y a plus... C'est ça, il n'y a plus la raison. On est sur la crête de la raison et de la déraison. C'est-à-dire, ce moment où, juste encore un peu, on tomberait dans le monde des fous. C'est-à-dire, tu viendrais me voir et je te dirais « Mais vous êtes qui, vous, mademoiselle ?» Mais l'instant d'avant, je dirais « Marie-Thérèse, mais c'est quoi l'instant où je ne te... Quel est l'instant où je serais sûr de ne plus te reconnaître ? Qu'est-ce qui se passe à cet instant-là ? Qu'est-ce qui se passe au moment où où notre raison est sur le point de lâcher mais ne lâche pas. On l'éprouve en général dans les moments de très grande douleur, qui arrivent par surprise. Un coup de téléphone sonne et là, c'est une flèche qui vous conduit dans un instant de douleur épouvantable, parfois insurmontable, que je ne me souhaite pas. Comment y arriver au même endroit, mais par le rire, la légèreté, la beauté, la naïveté, mais arriver au même endroit où pourrait me mener une nouvelle terrifiante. Parce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce silence de la vérité, de la poésie à son comble, parce qu'elle est plongée que dans la sensation entière des choses. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de connaissances, mais il n'y a plus de méconnaissances. Enfin, cette crête-là, me porte depuis que je suis tout petit, je pense.
Est-ce que quand tu écris et que tu montes tes spectacles, est-ce que tu penses au public? Est-ce que tu penses au public ou est-ce que tu penses à un certain rapport que tu voudrais établir avec le public? Parce qu'on a beaucoup dit que, bon, tu racontais des histoires qui avaient vraiment, que les gens avaient une prise sur ton théâtre, qu'il y avait vraiment ce rapport avec le public qui agissait complètement. Est-ce que tu penses à ça?
Ben, je sais que ce que je fais sera regardé. Je ne vais pas plus loin. Dans le sens où ce qui me dérange dans la pensée du public, c'est qu'il faut bien que je définisse quel public. Le public, regardez là, il y a du public, mais c'est quand on dit monsieur et madame tout le monde, moi je ne sais pas de qui on parle. Moi par exemple, quand je suis dans une salle, je suis qui? Est-ce que je suis le spécialiste du théâtre? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'a jamais été au théâtre? Est-ce que je suis celui qui n'aime pas le théâtre? Est-ce que je suis celui qui y a été pour la première fois de sa vie? Est-ce que je suis celui qui est... Je suis qui? Enfin, si on prend un à un chaque personne qui est assise, en imaginant que chaque personne a l'importance que chacun a pour, enfin, reconnaît par rapport à sa vie. Si je dois à ce moment-là choisir le public, c'est-à-dire penser au public, je pense à qui, je choisis qui, donc j'exclus qui. Alors, c'est très difficile parce que j'arrive pas moi à exclure ni à choisir. J'arrive pas à me dire bon, je vais faire du théâtre pour l'élite. Même là, c'est qui l'élite? Parce que parmi l'élite, il y a des cultures, il y a des différences. L'élite, mettons, ça serait quoi? Ça serait que, je sais pas, je dis n'importe quoi, que des professeurs en philosophie? Ou est-ce que ça serait des gens très riches, parce que ça c'est aussi l'élite? C'est qui l'élite? Est-ce que c'est des êtres illuminés tous? Et si je dis, bon, je vais faire une pièce pour ceux qui n'ont jamais été au théâtre? Moi je connais quelqu'un qui n'a jamais été au théâtre, qui est très 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 différent de quelqu'un d'autre qui n'a jamais été au théâtre. Donc, à partir du moment où bon, ça c'est la première chose. Alors là, je me dis quand même, ce que je fais sera regardé. Alors naturellement, je me place comme spectateur moi-même, un peu fantasmé, un peu délirant de moi-même. Ça c'est la première chose qui cherche, par exemple, je donne un exemple très simple, je suis en train de faire une scène où il y a un accouchement. Voilà, il y a un personnage féminin qui, évidemment, enfin bon, qui accouche de sa fille. Alors, la question première, c'est comment on va faire ça? On fait ça comment, là? L'actrice monte sur la table et pousse. D'accord. Est-ce que c'est la chaise? Comment on fait ça? Et au fond, qu'est-ce qui fait que, au moment où je me dis tiens, ça sera ça, qu'est-ce qui dit que c'est ça? Ce qui dit c'est ça, c'est que il y a eu une fraction de seconde où j'ai été moi-même surpris par ce que j'ai vu. Là, je me dis, c'est ça. C'est-à-dire que je pourrais encore chercher pendant très très longtemps, parce que probablement que ce que j'ai fait a déjà été fait bien avant moi. Et même, bon. Mais il se trouve que comment se prendre soi-même à son propre jeu, comment se prendre au piège de son propre théâtre, là s'établit une relation avec un spectateur qui est soi-même et un soi-même un peu, c'est vrai, c'est un peu schizophrénique, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand je pense au spectateur, je me dis, le spectateur, ce qu'il a envie de voir, c'est mon dialogue avec l'objet que j'essayais de créer. Voici l'objet que j'essayais de créer, ça veut dire la pièce que je suis en train d'écrire avec les acteurs. Je dialogue avec. Et puis, ce dialogue va faire apparaître ça. Je me dis que celui qui est là, il ne veut surtout pas qu'on tienne compte de lui dans ce dialogue-là. Parce que si je me mets à faire « ça va ? Ça te convient ?» Bah attends, je vais te faire ça parce que je crois que t'as aimé ça la dernière fois, globalement, hein, parce que je sais pas qui tu es, mais globalement, je sais que j'ai entendu un éclat de rire à ce moment-là. Donc si je passe mon temps à prendre la moyenne des réactions de ma dernière pièce, je vais finir par complètement contaminer le dialogue que j'ai avec cette chose que je connais pas encore, qui est le spectacle que je suis en train de faire, que je ne connais même pas. Je me dis que le spectateur, ce qu'il veut surtout, c'est qu'on ne s'occupe pas de lui. Qu'on lui dise pas quoi penser, ni quoi, qu'en rire, ni rien. Juste qu'on lui dise, le spectateur arrive, il dit, laisse-moi faire, moi. Dialogue. C'est un peu comme nous deux, là. On dialogue, puis les gens sont là, puis il y a 40 000 pensées dans la salle en ce moment. Si on passait notre temps à dire, est-ce que ça va, la question que j'ai posée, on s'en sortirait pas, parce que il y aurait 40 000 opinions différentes.
Mais bon, alors il y a ce regard que tu portes sur ce que tu fais. Mais dernièrement, en tout cas, s'est ajouté un regard qui regardait ce que tu faisais et qui était la dramaturge. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau dans ton travail. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a amené? On parle de Charlotte Farset qui collabore avec toi, qui donc est cette présence en salle de répétition qui observe, qui écoute, qui regarde et qui... Comment ça procède? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment ça fonctionne?
Je me dis que ça doit ressembler un tout petit peu à l'entraîneur de boxe. Ou si vous voulez, ça doit ressembler au regard du boxeur qui doit regarder le film de son match. Et qui dit, ah non là t'as été trop loin, trop proche, frappe plus fort, non là tu vois, là bon. Sauf qu'au lieu de se faire après, ça se fait pendant. C'est-à-dire, dans une salle de répétition... En tout cas, comme je répète, tout le monde est là, tout le temps. C'est-à-dire, le scénographe est là, la costumière est là, l'éclairagiste est là. Et il y a des moments de va-et-vient. C'est-à-dire, je construis la scène avec les acteurs, je suis avec eux sur le plateau, j'essaye des trucs, etc. Puis je vais assez loin, puis à un moment donné, je m'arrête et je regarde l'équipe et je leur dis « puis ». Et j'exige des réponses. Et là, tout le monde commence à parler. Il dit, moi, ça, c'est, non, je comprends, c'est un, bon, etc. Or, la seule qui n'a pas de fonction, c'est-à-dire le scénographe, malgré lui, il pense quand même à son décor, même s'il va parler de 40 000 autres choses. L'éclairagiste va parler de son éclairage, etc. La seule qui n'a pas de fonction, qui à la limite ne sait pas pourquoi elle est là, c'est la dramaturge qui est assise comme ça et qui n'a pas à s'occuper de rien, qui n'a pas à produire, qui n'a qu'à, en tout cas moi, me permettre de rebondir sur mon propre mur.
Elle te dit ce que tu es en train de faire, non ?
Elle me pose des questions. Okay. Elle éveille des choses, elle fonctionne aussi beaucoup comme moi j'en ai besoin, comme espace mental qui n'analyse pas mais qui symbolise les choses. Elle me dit, là, t'as mis un personnage là, dans Incendie, t'avais fait ça, je crois que entre les deux, il y a probablement un lien. Et alors, ça m'amène à me dire, tiens, il faudrait peut-être que dans Littoral, ça ne s'appelle plus la fille qui joue du violon, il faudrait peut-être que j'appelle ça la fille qui chante, pour créer un lien avec la femme qui chante dans Incendie. Ça paraît énorme, mais ça, c'est la dramaturge qui me l'a fait voir. Mais elle ne me l'a pas fait voir en me le disant. Elle m'a dit, c'est intéressant, dans Incendie, tu as une femme qui chante. Dans Littoral, tu as une fille qui joue. Est-ce que tu veux garder ça comme ça? Par exemple, quand on a fait Seul, ça a été un moment vraiment très important. À un moment donné, pendant les répétitions, j'ai eu envie d'arrêter. Parce que je me rendais compte que le spectacle était en train... Ça serait pas un bon spectacle. Ça serait, à mes yeux. C'est-à-dire, je me rendais compte que je ne trouverais pas, que j'allais tout droit dans le mur. Et moi, je me suis dit, je vais pas faire chier les gens, je vais pas me faire chier moi, pas partir en tournée, montage, démontage, tout ça, pour un spectacle auquel je ne crois plus. On arrête. On a arrêté parce que ça ne se passait pas. Quelque chose ne se passait pas de fondamental. Et dans un, là, tout le monde était là, donc je leur annonçais, on arrête. Et après un temps de silence, Charlotte a pris la parole pour dire « Mais en fait, on se trompe parce que dans Littoral, dans Incendie, dans Forêt, tu as toujours travaillé dans un rapport entre le texte et l'acteur. C'est-à-dire, tu as toujours travaillé pour faire en sorte qu'à partir du moment où la pièce fonctionnait, même là, en salle de répétition, avec rien... Une fois que tu as trouvé ça, là ça fonctionnait. Tu rajoutais le décor, l'éclairage, la lumière, etc. Elle dit là, dans Seul, on se trompe parce que tu penses fonctionner comme ça, mais Seul ne fonctionne pas comme ça parce que ton décor, ta vidéo, ton son, tu les regardes comme du décor, de la vidéo et du son, mais contrairement à tes autres pièces, dans Seul, ce n'est pas du décor, ce n'est pas de la vidéo, ce n'est pas du son, c'est de l'écriture. Et à ne répéter que ton rapport au texte, c'est comme si tu ne répétais qu'une réplique sur quatre. Donc nécessairement, ça ne fonctionne pas. Et elle a dit cette phrase, elle dit en fait, t'es passé d'une écriture monophonique à une écriture polyphonique. Et cette chose-là a tout déterminé, tout déterminé dans le sens où on s'est dit, mais oui, en fait, il faut que, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne vidéo... C'est comme si je n'avais pas écrit la bonne réplique. Tant que je n'ai pas trouvé le bon son, ça veut dire que je n'ai pas... C'est-à-dire, les mots parlés n'étaient pas le seul texte du spectacle. Il y avait la peinture, il y avait tout ça. Et si Charlotte n'avait pas dit ça, n'avait pas pris la parole, je ne sais pas si j'aurais fait seul. Je ne sais pas. Et donc, la dramaturge, c'est quelqu'un qui a cette capacité de... Mais c'est particulier parce qu'une dramaturge ne peut pas... Un dramaturge, c'est vraiment comme une chose extrêmement intime au metteur en scène. Tous les dramaturges ne peuvent pas travailler avec tous les metteurs en scène, etc., etc. Donc il faut trouver une sorte de personne qui pense avec vous et un peu plus loin que vous, mais pas... Non, pas plus loin, mais qui pense à côté de vous.
Qui avance en même temps.
En même temps, qui voit les choses d'un autre angle.
Je vais te poser une dernière question parce que je veux quand même laisser le temps aux gens dans la salle de te poser une question. Entre les spectacles, je déambulais dans la Place des Arts et à un moment donné, je me suis retrouvée à la salle des toilettes de la Place des Arts et j'écoutais les commentaires des gens. Et il y a une dame qui a dit quelque chose qui m'a assez amusée d'abord, puis après ça, là, je vais les retrouver parce que Attends, je vais la retrouver. Bouge pas. Oui, voilà. Alors, c'est quelque chose que j'ai entendu, vraiment. Et qui soulève une question intéressante. Alors, une dame qui dit, on est chanceux de l'avoir, hein, après avoir vu Littoral. Et l'autre répond, oh, oui, c'est quelque chose, Wadji. Mais des fois, je sais bien que c'est pas ça, là, mais des fois, j'ai l'impression qu'il nous en veut de pas avoir connu la guerre. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Je promets, mais je finis avec ça.
Euh, C'est aux antipodes de mes intentions. Enfin, mais vraiment, alors ça me... Enfin, qu'on puisse penser ça, j'accepte qu'on pense ça, dans la mesure où je me dis ça doit m'échapper complètement, parce que, enfin, l'idée d'en vouloir déjà à la base.
Mais tu penses pas que c'est lié au fait que il y a une charge quand même dans tes pièces là-dessus, et que le. En fait, ce que je questionne davantage.
Alors non, attends, je vais te répondre. Attends. Si on place la guerre d'un point de vue symbolique, alors oui. Dans Seul, il y a cette phrase, mais j'en veux pas à des gens, c'est pas Wajdi qui en veut à des, c'est très inclusif. Hein. Dans Seul, il y a cette phrase, qui pour moi est vraiment très très chère, c'est on vit nos vies comme si c'était un brouillon, et qu'ensuite on allait avoir un propre. Mais non, le brouillon, c'est le propre. Et je crois que cette chose-là, c'est un peu... Oui, alors là, oui, là je peux en vouloir. C'est-à-dire, je pourrais presque ruer dans les brancards, si on veut, pour dire... Si nos vies consistent à trouver, un peu comme le saumon remonte vers la source, on ne peut pas se reposer. Puisque se reposer à contre-courant, ça veut dire qu'un instant de repos, c'est 4 mètres en arrière, puisqu'on est à contre-courant de quelque chose. On voit bien que trouver un sens, ça demande un effort constant. On ne peut pas se reposer dans cet effort. On ne peut pas dire « moi j'ai trouvé le sens, c'est bon, c'est réglé, maintenant je suis en eau calme ». C'est constant. Un instant de repos, c'est 4 mètres en arrière qu'il faudra reconquérir. Cet effort, qu'est-ce qu'il est ? Sinon, ouais, c'est Sisyphe, quoi. Ouais, oui, d'accord, là, on échoue à tous les jours, mais il faut recommencer pour essayer de trouver où dans la trajectoire, où est-ce qu'elle s'est glissée, l'erreur qui fait en sorte que la boule retombe. Eh ben, on recommence. Recommencer très concrètement. Alors, pour chacun, ça peut prendre un sens différent. Mais, c'est comment faire pour que tout, je parlais avec un ami professeur tout à l'heure qui me disait, en fait, qui enseigne à des élèves, il dit, quand tu enseignes à des élèves, il faut d'abord qu'ils prennent conscience que tu parles. Il dit ça prend du temps, que tu parles. Ensuite, il faut qu'ils prennent conscience que ce que tu parles repose sur quelque chose qui a du sens. T'enseignes Aristote, la philosophie, tout. Alors ça aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, il faut qu'ils prennent conscience que tu leur parles. Dis ça, ça prend encore beaucoup de temps. Et ensuite, il faut qu'ils prennent conscience que ça les concerne. Et quand tu arrives à ça, la session est terminée. C'est quelque chose... Enfin, cette... Je pense que là, c'est un professeur qui parle de ses élèves, mais je pense que c'est soi par rapport à soi. Prendre conscience que je parle, prendre conscience que ça a du sens, prendre conscience que je me parle, ça me parle, et prendre conscience que ça me concerne. Et là, la vie est finie. Et là, c'est une guerre. Et celui qui ne mène pas cette guerre, c'est-à-dire, ouais, cet effort, cette guerre contre la paresse, contre la facilité, contre l'oubli, contre, allez, on va fermer la fenêtre quand même. Bon, oui, c'est une guerre. Alors là, je dirais oui, je peux en vouloir. Mais ne pas connaître la guerre avec des bombes, des guerres, non, mais là, c'est pas possible, voilà, oui.
Non, en fait, c'est ça, c'est que c'est une guerre qui nous concerne tous. Comme quand tu dis dans ton... Nous sommes en guerre dans ta saison au CNA.
C'est, nous, oui, parce qu'après, tout le monde peut bien choisir. Il est en guerre avec, il est en guerre contre, il est en guerre pour. Mais le geste guerrier est un geste de tentative de sortir d'une domestication qui fait en sorte qu'on se retrouve tous, d'une certaine façon, avec un rapport plus ou moins scolaire avec la vie. C'est quoi le rapport scolaire avec la vie ? C'est qu'à partir de 4 ans, jusqu'à l'âge de 22 ans à peu près, tu passes ton temps à dire « je serai... » Alors après, est-ce qu'on veut médecin, artiste, bon, mettons, je sais pas, médecin. Je serai médecin. Ensuite, bah, tu deviens médecin. Bah, là, tu continues ton rapport scolaire à la vie. Parce que quoi, de 24 ans jusqu'à 65 ans, tu vas dire, je suis médecin. Et à partir de 65 ans, tu vas dire, j'ai été médecin. Et là, la mort arrive, elle te regarde, elle te dit, mort. Et tu dis quoi? Tu dis, médecin? Et ce rapport scolaire avec la vie, c'est le rapport domestique, le caniche avec les petites pantoufles, et puis là, hein, puis tu fais caca ici, puis on ramasse la crotte, puis bon, c'est un rapport domestique, c'est-à-dire le rapport sauvage, c'est-à-dire marcher sous la pluie droit, est plus difficile à entretenir. Il est plus difficile parce qu'il est plus exclusif, la vie sociale fout le camp, t'as pas beaucoup d'amis, etc., etc. C'est, ça demande un peu plus d'efforts. Mais au fond, comment ça se fait, comment cela se fait-il que quand quelqu'un me dit qu'il est médecin ou acteur ou chauffeur d'autobus, ça m'apprend plus de choses sur lui, enfin, ça me donne l'impression d'apprendre plus de choses sur lui que s'il me disait « j'aime Beethoven ». La réponse « je suis chauffeur d'autobus, je suis médecin, je suis acteur » me rassure plus que s'il me disait, si je lui disais « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Si quelqu'un me dit « j'écoute Beethoven », c'est ce que je fais dans la vie, j'écoute Beethoven, ça m'inquiète plus que si il me dit je suis en train de chercher un nouveau travail, ou bien je comprends, hein, en même temps la vie est dure, etc. Mais je crois que le geste artistique est justement peut-être le lieu du choc tectonique qui peut simplement permettre, par la beauté, à se poser la question, mais où est la beauté dans ma vie ? Cette vie que je ne vis qu'une fois.
Bien, on va passer à des questions dans la salle. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ou je continue parce que moi j'en ai d'autres. Hein? Alors est-ce que oui, madame.
Bonjour. J'ai vu vos pièces complètement dans le désordre, parce que j'ai commencé par Seul, ensuite j'ai vu Ciel, et puis je viens de découvrir la trilogie. Et c'est un jugement complètement subjectif et personnel. Hein. Je découvre donc petit à petit votre théâtre, et j'ai adoré Seul, j'ai aimé Ciel, et donc j'étais très très impatiente de voir la trilogie. Et ces 12 heures m'ont un petit peu épuisée, j'avoue. Parce qu'il y a l'effet de répétition, à la fois on pénètre dans votre monde, mais on ressasse un petit peu toujours les mêmes questions. Il y a l'endurance, en fait, que demande cette performance, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour les spectateurs. Pourquoi mettre ces trois pièces, en fait, les unes à la suite des autres, alors qu'elles ont été créées, hein, séparément? Pourquoi les jouer les unes à la suite des autres? Est-ce que finalement, ça n'enlève pas quelque chose à votre théâtre plutôt que de les jouer séparément?
Alors, la raison pour laquelle j'ai eu envie de le faire est une raison tout à fait, très instinctive. J'avais vraiment envie de réunir les acteurs. J'avais envie de faire un geste qui soit un geste qui redonnerait un sens à tous ces acteurs que moi je... Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils se connaissaient pas tous. Hein, l'équipe d'incendie ne connaissait pas l'équipe de littoral ne connaissait pas beaucoup l'équipe de forêt, enfin bon, etc. Et j'avais envie, de façon très très personnelle, de me dire mais qu'est-ce que c'est que cet univers qui a été créé ? Et j'avais le sentiment que si je les mettais tous les trois ensemble, je comprendrais quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, justement, quelle est la source de tout ça, pourquoi j'ai écrit tout ça, qu'est-ce qui m'a conduit à travers tout ça. Et y a-t-il une évolution, y a-t-il une montée, y a-t-il une trajectoire qui va de Wilfried à Jeanne et Simon, de Jeanne et Simon à Lou, y a-t-il un récit? Et donc il y avait ces questions qui m'étaient très personnelles, et ensuite il y avait l'envie d'une aventure très débile qui était de se dire, et si on faisait quelque chose d'impossible, de très long, auquel on convierait les gens comme à une fête, parce que tout ça est arrivé à un moment où Littoral avait beaucoup tourné, Incendie avait beaucoup tourné, Forêt avait beaucoup tourné, tout ce que je pouvais entendre sur Littoral, je l'avais entendu, tout ce que je pouvais entendre sur Incendie, je l'avais entendu, tout ce que j'avais entendu sur Forêt, je l'avais entendu. Donc je leur disais, et si on faisait une espèce de grande fête, presque gratuitement pour nous, auquel on convierait les gens qui en auraient envie, avec la possibilité qu'ils puissent partir quand ils veulent. Donc des longues entractes, la possibilité d'être ensemble, et de penser toutes sortes de choses à travers les pièces, de dire moi j'ai préféré celle-là à celle-là, de dire moi j'ai plus préféré celle-là à celle-là, moi je suis parti, moi je suis revenu, j'ai vu Forêt seulement parce que Littoral et Incendie je les avais vus ailleurs. Cette espèce de choses tout à coup moins catégorique lorsqu'on crée un spectacle tout seul auquel on investit tout, puis que chaque centimètre est étudié, et un brouillon, mais il y avait quelque chose de l'ordre du geste, comme il m'arrivera jamais de revivre. Et j'avais envie de vivre ça une fois avec les amis avec qui je l'avais fait, et de permettre aux spectateurs qui avaient envie de vivre un endroit comme ça, de le vivre sans l'obligation de le vivre jusqu'au bout non plus. D'où les entractes, quand même, des entractes d'une heure et demie, c'est dire, voilà, hein, c'est, y a aucun problème. Hein, c'est maintenant, nous, on est là jusqu'au bout. Il y avait quelque chose un peu de cette... festivité là, je dirais.
Quelqu'un d'autre voudrait poser une question? On est vraiment. Oui.
Je suis curieux de votre façon d'écrire. Je sais pour en avoir parlé avec. Quelqu'un qui a travaillé avec vous, que parfois il arrivait, puis vous aviez écrit le texte durant la nuit et vous le donniez, et il devait l'interpréter. Je voudrais savoir si vous avez... C'était pour Incendie, ça. Je voudrais savoir si vous avez continué d'écrire comme ça, si vous écrivez, finalement, en même temps que vous créez avec les gens avec qui vous allez faire le spectacle.
Oui, c'est-à-dire que... Enfin... C'est... Il faut dire que je porte l'histoire depuis 5 ans, hein. Donc je la porte, je la connais, hein, on se connaît bien. Après arrive la question de sa concrétisation concrète. Par exemple, Incendie, par quoi on commence? Mettons qu'on commence par la scène du notaire. Alors j'ai commencé par écrire la scène du testament, parce qu'elle était très concrète. Alors, je l'ai dialogué. Un personnage qui dit à l'autre, alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà l'enveloppe. Puis, quand j'ai lu la scène aux acteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas parce qu'elle était trop factuelle. J'ai enlevé la réplique des autres, je n'ai gardé que les répliques du notaire. Ensuite, je l'ai retravaillé un peu plus particulièrement pour lui donner une forme de langage. Donc, si vous voulez, l'écriture fonctionne comme une sorte de construction en direct, comme si je cherchais la tonalité. Alors, on l'essaye en salle de répétition, je rentre à la maison, j'ai bien entendu que j'ai pas encore trouvé la bonne tonalité. Alors, je travaille pendant la nuit, j'essaye autre chose, on arrive le lendemain, on essaye, puis à un moment donné, ping, je trouve la phrase. C'est vraiment comme une... Vous savez, quand vous êtes sous la douche, puis les robinets sont un peu compliqués, là, dès que vous en ouvrez un, c'est trop chaud, dès que vous en ouvrez l'autre, c'est un peu trop froid. C'est comment trouver la juste température, c'est exactement la même chose. Et une fois que vous l'avez trouvé, ben, vous écrivez la scène suivante, puis ça recommence. Mais à un moment donné, ça peut aller plus vite, parce que vous commencez à entendre la tonalité, mais parfois vous tombez sur un os. Et là, ça peut prendre 3 semaines avant de trouver la scène. Une fois que vous l'avez trouvé, vous... Et des scènes, par exemple, dans Incendie, la scène entre Nawal et Saouda, la longue scène où il se pose la question, est-ce qu'on tue, est-ce qu'on tue pas, qui est une scène que je voyais venir de très très loin, et qui me faisait très peur, parce que je sentais bien que si je la rate, la pièce est ratée. Elle s'est écrite, alors j'ai écrit la scène juste avant. Il était 11h30 du soir, je me suis dit, ok, j'écris la scène juste avant, celle qui est une scène très technique, qui n'est pas très compliquée, je l'ai écrite, et puis je m'étais dit, ok, là j'arrive à cette scène, demain, là je vais me coucher. Et j'étais vraiment comme ça, quoi. Je me suis dit, mettons que je mets juste les idées. Donc, normalement, j'écris à la main. Là, j'étais sur l'ordinateur, je me dis, je vais juste mettre les idées. Voilà, ils sont entrés dans les camps, machette, hache, fusil. Je me suis dit, de toute façon, ça commencera jamais comme ça, mais mettons. Hein, commencer la scène, puis elle s'est écrite là. Mais je boum, c'est-à-dire que réplique, phrase après phrase, j'ai senti monter en moi une chose, mais d'une densité folle. Et j'ai écrit la scène, je l'ai écrit, mais toujours en me disant je verrai demain. De toute façon là, au pire j'efface. Hein, mais j'ai perdu le temps. Je suis rentré, j'ai été me coucher, il était très tard. Je me suis levé le lendemain matin avant d'aller en répétition. J'ai relu la scène et. Et un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une scène qui, à ce moment-là, m'a profondément... J'ai fait, il y a quelque chose de juste, là. Il y a peut-être quelque chose à corriger, mais est-ce qu'elle serait écrite ? Puis c'est peut-être pour ça, quand je parle d'effraction tout à l'heure, c'est comme si je l'avais écrite par effraction, cette scène. Et que s'il avait fallu que je l'écrive en mon droit, en ayant le droit de l'écrire, je ne l'aurais pas écrite. Je n'aurais pas su l'écrire. Il a fallu que je l'écrive comme un voleur. Et je crois que les choses importantes qu'on écrit, on les écrit comme des voleurs, comme des assassins, comme des gens qui n'ont pas le droit de faire ça, mais qui l'ont fait, et qui après se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais pas su le refaire, quoi. Mais Incendie au complet, il y a peut-être 2-3 scènes qui ont été écrites avec cette sensation pour moi. C'est pour ça, si vous voulez, moi, quand je regarde Incendie ou Littoral ou Forêt, je ne vois que les artifices. Je ne vois que les ficelles. Parfois, je vois une phrase qui est une phrase d'effraction, une phrase qui m'est venue. Mais je... Voilà.
Ah, je crois que mademoiselle...
Oui, moi, ma question s'adresse à l'homme auteur et à l'homme metteur en scène. En fait, juste savoir de la façon que vous parlez aujourd'hui, j'ai l'impression d'entendre plus l'auteur et j'aimerais entendre comment vous définissez votre métier, la mise en scène. Comment vous voyez la mise en scène?
C'est vrai, je me suis jamais vraiment considéré comme metteur en scène. C'est-à-dire que la mise en scène est pour moi une chose qui relève d'un artiste, d'un artiste de la scène qui, à travers le texte, à travers la voix d'un autre. Porte un regard qui lui est tout à fait unique à travers le regard d'un autre et la conjonction des deux donne un objet absolument unique. Moi, quand je pense par exemple à Peter Brook qui monte La Cerisaie ou quand je pense à Denis Marlowe qui monte Les Aveugles, là je comprends, je me dis voilà un metteur en scène, hein, c'est quelqu'un qui a un regard sur une écriture et qui va l'amener à un endroit où elle-même ne pensait pas aller. Quand Stanislas Nordet a mis en scène Incendie, il a pris Incendie et il l'a amené à un endroit où Incendie ne savait même pas qu'elle pouvait aller. Moi, je suis un type qui n'a pas de temps à perdre pour essayer de convaincre un metteur en scène de monter sa pièce. Qui n'a pas envie d'être dans un rapport de marchandage avec quoi que ce soit. J'ai pas envie qu'un metteur en scène me dise « Oui, là, c'est un peu long, il faudrait couper. » J'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. J'ai compris ça très très vite. Très vite. Quand je suis sorti de l'école, j'ai compris ça très très vite que ça, c'est pas, ça, faut pas, je vais devenir dingue. S'il fallait que je marchande là, réécris ça, ce serait bien que tu réécrives ceci. Là, je trouve que dramaturgiquement, c'est pas possible. C'est peut-être la chose qui me met le plus en colère quand j'entends un metteur en scène dire ça à un auteur. J'ai envie de qu'il dise rien à l'auteur, qu'il le fasse. Tu sais, qu'il coupe, qu'il monte. Mais pas qu'ils disent, ouais, réécris ça, c'est bon, quoi. On demande beaucoup aux auteurs, hein, on leur met là dessus, c'est vraiment pire. Bref, on ne va pas entrer là-dedans. Donc, moi, je me suis dit, je vais le faire moi-même, quoi. Et quand j'ai monté d'autres pièces que les miennes, je les ai montées parce que rapidement, je me suis rendu compte que si je voulais bien monter les miennes, il faudrait peut-être que j'aille faire des ateliers de mise en scène. Et quand j'ai monté Édipe Roy, ou quand j'ai monté Le Mouton et la Baleine, hein, ou quand j'ai monté Ma Mère Chien, ou quand j'ai monté Six personnages en quête d'auteur, ou bien Les Trois Sœurs, ou bien j'ai toujours été voir, soit auprès de textes qui sont des chefs-d'œuvre, soit auprès de textes qui sont écrits par des auteurs vivants que je peux côtoyer, un endroit de travail, de mise en scène comme un endroit d'entraînement physique pour moi. Dans le cas des auteurs tragiques et des chefs-d'œuvre, j'avais pas beaucoup de mauvaise conscience parce que je me disais bon, si c'est raté, ça leur fera rien. Mais dans le cas de Ma Mère Chien, dans le cas de Louise Bombardier, de Ahmed Ghazali, là c'est plus important parce que là c'est un auteur vivant, il fallait que je le défende. Donc quand je fais ça, je ne monte que des pièces où j'ai l'impression que j'aurais pu les écrire, au fond. Et donc, je retombe un peu sur mes pattes. Parce que quand je monte Le Mouton et la Baleine, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Et je la monte comme si c'était moi qui l'ai écrite. Donc, je me suis jamais considéré comme mettant en scène. La mise en scène comme art n'est pas un art dans lequel je suis à l'aise. Je suis pas un... Non, je sais pas. Je dirige les acteurs comme s'ils étaient tous moi. Je leur montre, je leur fais entendre la tonalité que j'ai dans la voix, je leur dis ça a été écrit comme ci, j'ai été écrit comme ça, c'est ce rythme-là. On fonctionne par imitation et ensuite pour le reste je leur fais profondément confiance. Il n'y a pas de direction psychologique, ou il y en a un peu, je leur parle comme je vous parle là. Et puis ensuite ben, ils prennent ça, ils vont sur le plateau et je leur dis ah là ça m'a touché, là essaye comme ci, essaye comme ça. Mais je peux pas dire que je suis un grand pédagogue. Auprès des acteurs, quoi. Je pense pas qu'un acteur avec moi apprend à mieux se connaître comme acteur. Il apprend à se connaître peut-être comme être humain, parce que j'insiste énormément sur le rapport. Qui es-tu toi à dire ce texte-là? Quelle est ta vie? Je veux pas la connaître, mais interroge-la. Qu'est-ce qui t'ébranle? Va dans cet ébranlement et fais en sorte que l'ébranlement qui t'habite passe à travers ce texte-là et voyons quelle vibration il va donner. Ça, oui, je pousse beaucoup là-dessus, mais je vais jamais parler de personnages, de là, etc. J'y comprends rien. C'est, comme je disais, je viens d'une famille qui n'a pas de psychologie. Affirmée, en tout cas.
Il est 6h25, peut-être certains d'entre vous doivent voir un spectacle à 19h, donc on va se dire au revoir ici. Je te remercie infiniment.
Merci à toi. Merci. Merci.